le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Bien, depuis quelques années, la République démocratique du Congo accueille dans sa partie orientale, notamment dans la région du Haut-Touélé, les différentes vagues des pasteurs Mbororo à la quête de pâturage pour leurs vaches. Ces migrations s'imposent comme mécanisme d'adaptation aux effets néfastes du changement climatique. L'alimentation animale est devenue rare et coûteuse dans leur pays d'origine. Alors cependant, ces migrations occasionnent des conflits fonciers, des problèmes de citoyenneté et des défis sécuritaires. Comment bien gérer les flux migratoires des réfugiés climatiques en République démocratique du Congo? On en parle avec notre invité, le professeur Raphaël Chimanga, directeur du Centre de recherche des ressources en eau du bassin du Congo. Professeur, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bien, alors les flux migratoires on parle des flux migratoires des réfugiés climatiques. Alors qu'est-ce qu'on entend? Qui est un réfugié climatique, professeur?
Bon, c'est une terminologie qui s'appelle, je ne suis pas spécialiste en migration, mais plutôt je suis spécialiste en hydrologie. Alors il y a des termes qui peuvent bien être définis par le démographe, les sociologues et consorts, mais ici je vais élaborer le contexte du projet que nous avons mis en place, que nous avons conduit avec, c'est un projet multidisciplinaire sur les nexus climat aux migrations conflits dans le bassin du Congo. C'est un projet évidemment qui aborde cette question de migration des éleveurs transhumants Mbororo vers le bassin du Congo, plus spécifiquement dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo concernant les régions d'Ituri, Bazuélé, Haut-Touélé. Alors, nous avons conduit cette étude ensemble avec les professeurs qui sont démographes. Là, je mentionne les professeurs Loututala qui a abordé les questions de changement climatique et l'immigration. Et il y a un autre professeur, le professeur Michel Bissa, qui est sociologue. Il a abordé les aspects des conflits liés aux effets, aux flux migratoires. Et moi-même, en tant qu'hydrologue, j'ai abordé les questions du climat et eau et vulnérabilité. Alors, il y a des terminologies spécifiques, surtout en ce cas précis, puisque nous sommes arrivés à comprendre qu'il n'y a pas seulement les effets de migration qui concerne les éleveurs Mbororo, ce n'est pas seulement dû au changement environnemental ou bien changement climatique, mais il y a aussi beaucoup d'autres facteurs qui interviennent là-dedans, qu'il faut vraiment prendre en compte. Alors, parmi ces facteurs, donc nous avons épinglé un certain nombre de thématiques. Nous avons épinglé la thématique climat-eau, par exemple, qui a été abordée, la thématique changement climatique et migration des populations, la thématique cartographie de la transhumance et vulnérabilité des biodiversités. Il y a autre thématique conflit et enjeux sécuritaires dus au climat, aux migrations et conflits des éleveurs Mbororo. Il y a la thématique même, voilà aussi une autre thématique très importante, qui a fait aussi l'objet d'une thèse de doctorat à Kisangani, la thématique sur les statuts juridiques controversés des éleveurs Mbororo. Bon, il y a aussi la thématique vulnérabilité globale et mécanisme de résilience. Donc, nous avons abordé l'ensemble de ces thématiques. Nous avons fait environ 70 recommandations qui sont sorties de cette étude et nous avons adressé ces recommandations au gouvernement. Nous pensons qu'il est important que ces recommandations soient exploitées pour bien aborder cette question complexe qui touche le bassin du Congo et aussi la région de l'Afrique centrale.
Bien, donc les flux migratoires, c'est un réel problème. Est-ce qu'on peut considérer cela, professeur, comme une menace pour la RDC?
Exactement, c'est une menace sécuritaire, une menace environnementale, puisque avec cette étude que nous avons conduite, nous sommes arrivés à comprendre que avec la question des migrations des éleveurs Mbororo, il y a des conflits culturels n'est-ce pas? Il y a des conflits entre les religions, différentes religions qui sont en train de s'observer actuellement dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo, des conflits qui concernent les mariages, les conflits qui concernent les agriculteurs et les éleveurs, puisque pour la plupart, ceux qui viennent sont des éleveurs et ceux qui sont ici sont des agriculteurs. Alors, il y a des conflits, des empiètements, des pollutions, des coûts. Alors, il y a la pression sur les ressources naturelles et nous avons fait aussi la cartographie des itinéraires des migrants et évalué aussi l'impact sur la biodiversité et les aires protégées. Donc, c'est aussi un élément important. Alors, il y a la vulnérabilité des communautés locales au niveau de la RDC. Nous savons que ces communautés sont soumises à plus de deux décennies de conflits armés d'instabilité, et à cela s'ajoutent maintenant les flux migratoires des éleveurs Mboro et tous les conflits qui sont liés. Donc c'est une question vraiment complexe qui mérite d'être abordée. Et puis, dans notre étude, nous sommes aussi parvenus à relever les différentes origines des migrants Mboro. Alors, ils viennent de Libye, ils viennent du Mali, Niger, Tchad, Soudan, et Il passe par la République centrafricaine et puis à partir de là, il y a une frontière d'environ 800 kilomètres qui est vraiment poreuse et ils utilisent cette frontière pour pouvoir entrer et s'installer dans la forêt et leur entrée est des fois passe par des fois inaperçue, ils ne sont pas contrôlés. Alors cela a beaucoup d'impact, beaucoup de conséquences sur l'environnement naturel de la RDC, mais aussi l'environnement socio-économique. Donc, il y a des avantages, mais aussi il y a des inconvénients. Et nos recommandations qui ont été formulées, c'est pour voir comment est-ce que les avantages peuvent être exploités et que les mécanismes, les stratégies soient mises en place pour pouvoir diminuer les inconvénients.
Bien. Alors aujourd'hui, comment c'est une réalité, ces éleveurs Mbororo qui viennent des autres pays viennent dans le s'installer chez nous pour trouver des pâturages et ça crée des conflits tout ça. Et alors maintenant, quelle est la bonne manière de gérer ces flux migratoires, professeur?
Alors, la bonne manière, c'est que nous avons fait, c'est que je vous dis que nous avons fait 70 recommandations. 70 recommandations pour pouvoir gérer ces flux migratoires. Alors, je ne sais pas ici.
Faut-il les ramener dans leur pays?
Les recommandations. Je crois que ces recommandations ont aussi été transmises à la radio Okapi, je crois, et à plusieurs parties prenantes. Donc, c'est que il est important qu'une stratégie de gestion des migrants soit mise en place pour que on puisse éviter les conséquences que nous sommes en train d'observer aujourd'hui.
Bien, alors vous avez il y a plusieurs recommandations. Pouvez-vous épingler les recommandations les plus urgentes ou prioritaires?
Alors je disais il y a eu des recommandations sur différentes thématiques. Nous avons abordé plusieurs thématiques. Alors, il y a eu, par exemple, des recommandations sur la thématique conflits et enjeux sécuritaires dus au climat, à l'eau et aux migrations et tout ça. Alors, dans cette thématique-là, il y a eu des recommandations, par exemple, qu'il fallait légiférer sur les statuts juridiques à accorder aux éleveurs Mboro dans les territoires congolais. Puisque, pour le moment, ils n'ont pas un statut juridique. Vous trouvez? Alors, ils sont considérés, et ce sont des migrants climatiques ou ils ne le sont pas. Donc, il faut légiférer sur ces statuts-là. Donc, il faut, par exemple, installer et renforcer les capacités de la police nationale d'hygiène à la frontière, puisque ils viennent avec le bétail. Bon, c'est que quand c'est le parcours transfrontalier, c'est qu'il y a transmission, il peut y avoir transmission des maladies d'un pays vers un autre, il est important qu'on puisse même mettre en place la police nationale d'hygiène à la frontière pour faciliter la vaccination des animaux qui sont importés vers la RDC. Ça ne se fait pas. Il y a des maladies, par exemple, actuellement, on est en train de noter de plus en plus de cas de maladies des zoonoses dans les milieux concernés. Alors, on avait même aborder les recommandations telles qu'il faut développer l'industrie agro-pastorale de communautés locales par le développement des villages agricoles, par exemple, dans les chefferies frontalières, en vue de matérialiser les concepts du transfert virtuel de l'eau, puisque vous comprenez, il y a cet aspect de migration, de flux migratoires, mais il y a aussi l'aspect des transferts d'eau du bassin du Congo vers le lac Tchad. Alors, est-ce qu'il y a lieu de pouvoir aborder les transferts virtuels de l'eau comme alternative au transfert de l'eau qui est en train d'être, qui a été proposé, puisque ça c'est une alternative crédible, comme qui se crédibilise comme un moyen alternatif, économique alternatif dans le contexte des changements climatiques. Donc il y a un peu plusieurs recommandations qui ont été abordées selon plusieurs thématiques. Alors les rapports, ce que moi je dis, c'est que les rapports est disponible, les rapports doit être exploité. C'est les rapports, il y a eu plusieurs, il y a vraiment une analyse poussée, avancée. Il y a des recherches qui se sont faites sur 2 ans, depuis 2019 jusqu'à 2021. Les chercheurs sont partis sur terrain, les chercheurs dans les équipes multidisciplinaires des chercheurs sont partis sur terrain. Les résultats de l'atelier ont été présentés dans un atelier national à Kisangani au mois de juillet 2021. Il y a eu 43 institutions qui sont impliquées dans la question, qui ont participé à cet atelier, et ils ont validé les résultats, ils ont formulé des recommandations. Et à notre niveau, au niveau du centre de ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC, nous avons transmis ces résolutions-là aux différentes parties prenantes, différentes institutions qui prennent la décision des gestions durables des ressources en eau dans le bassin du Congo. Et nous souhaitons que ces recommandations-là soient exploitées pour aider notre pays à pouvoir aborder cette question complexe au niveau régional.
Bien. Alors, donc, il y a des recommandations qui ont été faites là-dessus. Alors, vous avez proposé, en parlant du transfert des eaux de Lubangui vers le Tchad, et si on arrivait à le faire, cela pourra réduire l'arrivée de ces éleveurs vers notre pays.
Non, ce n'est pas, je ne dis pas que c'est si on arrivait à le faire, puisque il faudra un peu comprendre, il faut comprendre les mobiles ou bien les objectifs qui sont cachés derrière le flux migratoire actuellement observé entre le bassin du lac Tchad et le bassin du Congo, et aussi les mobiles qui sont derrière la proposition du transfert des eaux du bassin du Congo vers le lac Tchad. Alors, c'est ainsi que nous disons, puisque dans le contexte actuel et selon ce qui est en train ce qui est observé, puisque l'étude aussi que nous avons réalisée, nous avons été en contact avec les populations locales pour avoir leurs avis comme partie prenante dans cette question qui se pose des transformats des eaux. Alors nous avons aussi des recommandations qui ont été faites en ce sens-là sur la base de la perception des populations, mais ici nous disons que nous sommes en train de favoriser ou bien de promouvoir les concepts de transfert d'eau virtuelle, qui est un concept différent du transfert d'eau brute qui a été proposé. Donc les concepts de transfert d'eau virtuelle, c'est un autre contexte différent qui est adapté dans les conditions de changement climatique et qui est vraiment un modèle économique alternatif qui peut bien servir les deux parties, les deux régions, la région du bassin du Congo et la région du bassin du lac Tchad, tout en évitant les impacts environnementaux et les impacts sociaux qui peuvent être observés des projets de transfert d'eau brute.
Bien, on va accueillir Jean-Claude de Kindou. Bonjour.
Oui, bonjour aussi à l'invité, monsieur le professeur Timang.
On vous écoute.
Oui, moi je pense que c'est une problématique qui est beaucoup plus pertinente dans la mesure où ce flux est sans conséquence dans notre pays. Nous sommes tous en train d'observer avec impuissance comment ces gens qui sont victimes de flux migratoires et des changements climatiques, surtout ceux-là qui nous viennent du Tchad et de la République centrafricaine, en l'occurrence les Mbororo, sont en train de faire rage chez nous avec tous ceux qui sont en train de commettre comme violation des droits de l'homme. Et on a toujours dit que la RDC, c'est un pays solution. Je pense que cette fois-ci, nous devons saisir la balle au bon avec toutes les recommandations que le prof vient d'épingler pour mettre fin à cette situation. Parce qu'à la lire où vont les choses, la situation va rester beaucoup plus grave ici aux horizons 2030. Donc, c'est une situation vraiment catastrophique où, de toutes les façons, on doit prendre des mesures de précaution. Et pour terminer, je dis, j'aimerais avoir, n'est-ce pas, les coordonnées du prof. Peut-être si vous pouvez m'aider à la fin de l'émission pour pouvoir échanger avec lui un tout petit peu. Merci beaucoup.
Bien, merci. Professeur Raphaël.
Oui, merci beaucoup. Je salue notre auditeur. Alors, j'aimerais noter là-bas, c'est que les migrants ne viennent pas. Donc, c'est que la République centrafricaine, c'est un peu un pays carrefour. Mais ils ne viennent pas de la République centrafricaine. Les migrants, là, que nous avons identifiés, nous avons évalué l'origine des migrants, c'est qu'ils viennent de plusieurs pays du Nord. Ils viennent, nous avons dit qu'ils viennent du Mali, ils viennent du Niger, ils viennent de la Libye, ils viennent du Tchad, ils viennent du Soudan, ils viennent de tout ce pays-là. Alors, les motifs de leur migration sont aussi un peu divers, n'est-ce pas, sont divers. Il y en a qui viennent juste pour le bétail qui doivent trouver le pâturage. Alors, et l'eau bien entendu, il y en a qui viennent pour d'autres raisons, il y en a qui viennent même qui sont armés. Alors, c'est un peu toutes ces questions-là qui font que la définition, les besoins de la définition du statut juridique des migrants Mbororo s'impose actuellement. Donc, c'est une des recommandations qui a été faite compte tenu un peu des activités qui sont menées par les migrants pour le moment et de leurs origines. Il est important puisque nous sommes en train de nous perdre dans la définition de migrants climatiques. Est-ce que tous les migrants qui viennent, c'est parce qu'il y a eu variabilité ou bien changement climatique dans les pays du Sahel? Bon, il y a un peu, c'est complexe, nous n'avons pas assez de temps pour que je puisse parler de tout ça ici, mais je dis que nous avons fait une étude. Nous avons fait une étude et actuellement nous avons un livre qui doit sortir, un livre qui est édité par trois professeurs d'université. Je note le professeur Raphaël Chimanga, moi-même, le directeur du centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC. Il y a le professeur Michel Bissa de la faculté des sciences politiques et sociales, le professeur Bernard Loutoutala qui est de la faculté des sciences économiques, département de démographie. Donc il y a un livre qui va sortir, je crois, incessamment, et qui a environ 18 chapitres. 18 chapitres qui traitent en profondeur des questions des éleveurs Mbororo, changement climatique, effet migratoire, pression sur les ressources naturelles, pression sur l'eau, pression sur les aires protégées, la biodiversité, la vulnérabilité des populations locales et les mécanismes de résilience pour la population qui subit des atrocités depuis un certain nombre de temps. Alors, il y a ces recommandations, mais nous avons résumé cela pour le moment. Il y a un rapport qui est en train d'être circulé, qui est disponible, qui peut être exploité par qui veut l'exploiter. Il y a le rapport qui est disponible et le rapport a déjà été transmis au gouvernement, ça a été transmis à différentes parties prenantes. Il est important que ce rapport-là soit exploité. Et nous avons aussi développé une base de données importante sur cette question et cette base de données est à la disponibilité des chercheurs, des décideurs pour qu'on puisse faire des scénarios qui peuvent bien orienter la stratégie des gestions de cette question complexe au niveau régional et au niveau local.
Bien, on va accueillir Fatou depuis Bounia. Bonjour. Fati depuis Bounia. Bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la gestion des flux migratoires des réfugiés climatiques?
Bon, je pense que c'est pour donner aux portes qui accèdent dans notre pays. Parce que c'est ce qui nous crée des problèmes, surtout à l'Est. Parce qu'on avait l'état de donner l'occasion, qui se demandait à l'époque, pour venir d'abord se berger dans notre pays. Et je pense que ça doit donner toujours des problèmes. C'est quelque chose qui est lié à l'irresponsabilité de notre gouvernement. Donc, ils peuvent être de discuter, de prendre ou bien, je ne sais pas, quelque chose comme cahier des charges, on dit que tel que vous voulez peut-être une il faut ceci, cela. Mais nous, on donne facilement opportunité. Je donne un exemple, peut-être comme à Goma, quand il y avait éruption, c'était peu difficile d'aller la population de Goma pour accéder au Rwanda. Il faut d'abord un peu de discussion. Pourtant, et il faut croire que nous, on a quelques problèmes serrés d'éruption dans notre ville de Goma. Mais chez nous, à tout moment, et n'importe qui peuvent entrer dans notre pays, ça, on a des discussions, ça, autant même des réflexions. Alors, ça peut toujours créer des conflits. Là, c'est ça, cela passe, c'est l'opportunité. Après, deux ou trois ans, ils vont rester là, ils vont s'habituer et ça va nous donner toujours des problèmes. Ils vont maintenant créer des dossiers avec les autochtones de là. Voilà, c'est ça ce que je passe.
Merci Fatih Debounia. Malonga, vous êtes à Bandounouville. Bonjour.
Bonjour aujourd'hui, Kachama. Bonjour à notre invité et à tous ceux qui nous suivent à ce moment ici.
Bien, nous savons que la province du Bandoundoua a été aussi envahie à un moment par des éleveurs venus avec venus de l'Est avec les vaches.
C'est ça que je vais commencer d'abord à poser à l'invité, le professeur Ekilia. Est-ce que être migrant, c'est avoir le droit de s'imposer n'importe où vous voulez rester, même vous trouvez les autochtones là-bas, les responsables de là, ils n'ont pas le droit de vous demander la raison d'être là ou bien quoi? L'invité va nous expliquer. Pour les réfugiés, nous savons que oui, les réfugiés, on peut respecter. Les frontières restent ouvertes pour les réfugiés. Puisqu'ils fuient, ils peuvent aussi rentrer. Mais un migrant qui vient avec l'ambition de rester éternellement, il doit s'adresser aux propriétaires du milieu. Ce que nous parlons, en tout cas, je dis merci d'abord pour organiser ce sujet. Vous venez nous ici, des grands bandes de nous d'abord, puisque nous sommes dans le Congo, là où les bilotiques étaient venus sous coulisses, ou bien sous boule, vous allez m'excuser avec notre terme chinois, de dire que non, ils venaient seulement vendre les vaches, ceci, cela, mais nous avions entendu à l'intérieur, ils venaient pour espionner comment est-ce qu'ils vont encore conquérir le territoire congolais. Comme aussi aujourd'hui, on nous a imposé un nouveau tribu banyamulé qui n'existe pas même dans notre livre d'or. Ces tribus n'existent pas même aujourd'hui. On commence à les répéter. Ceci est à cela. Alors, attention encore avec les Mororo. Mororo, dire. Et nous savons déjà la malignité de la politique internationale. Si les Occidentaux, pardon, je m'excuse de les citer comme ça, ils préparent déjà leur plan international pour bouleverser quelque chose. Il faut faire chanter ces choses. L'embol, c'est depuis longtemps. Or, il y a quelque chose qui est là. Alors, nos politiciens d'abord font des systèmes, puisqu'ils luttent souvent avec ça. Mais attention. Ils veulent céder un territoire congolais à ce genre de personnes. Aujourd'hui, le Soudan était A, le Soudan devient B. Ils veulent aussi nous faire quelque chose à notre bassin. Or, ils oublient que c'est le seul pays au monde qui a un fleuve, le plus grand fleuve, qui tire sa source dans ce pays et son embouchure dans ce pays. Donc, la RDC sera indivisible jusqu'au retour de Jésus.
Malonga, vous voulez dire qu'il n'y a pas, c'est pas seulement un flux migratoire des réfugiés climatiques, mais il y a d'autres visées, d'autres enjeux derrière, des enjeux politiques.
Oui, c'est que je m'explique. J'ai commencé que, oui, les réfugiés ont droit de s'imposer, de venir. parce qu'on doit protéger les réfugiés. Mais un migrant qui vient volontairement, il fuit lentement, ce qui lui attaque. Et nous sommes dans une guerre internationale de réchauffement climatique. Oui, nous connaissons ça. Si il vient, il fuit. Mais il y a des projets qui favorisent la forestation.
D'accord, merci. Alors, professeur Raphaël va répondre tout à l'heure. Professeur, vous avez la parole.
Oui, je remercie notre interlocuteur. Oui. Alors, c'est que dans notre étude, nous sommes parvenus à comprendre que les éleveurs Mbororo occupent plusieurs territoires des provinces du Bas-Ouélé, Haut-Ouélé et aussi de l'Ituri, vers la partie nord-est de la République démocratique du Congo. Alors, mais nous avons aussi constaté que leur immigration en RDC s'est faite, n'est-ce pas, et continue à se faire au mépris des règles relatives à la migration et aussi sur le plan international, sur le plan régional aussi, sur le plan national. Alors, à cela, il y a eu quand même plusieurs questions que nous nous sommes posées, n'est-ce pas, et il y a eu plusieurs questions qui étaient posées pour savoir est-ce que donc les migrants Mbororo sont-ils des réfugiés au sens classique du terme? Voilà. Est-ce que sont-ils des réfugiés dits climatiques ou environnementaux? Alors, sont-ils des réfugiés économiques? Alors, bon, ils sont des apatrides, quoi. Donc, ou bien ce sont des envahisseurs ignorés par la RDC. Donc, ce sont ces questions-là aussi qui ont mérité une réflexion plus poussée dans notre étude que nous avons réalisée. Et que pour lesquels les recommandations ont été faites et qui sont maintenant disponibles. Tout ce que si je dois me répondre, c'est que on doit exploiter les recommandations. C'est environ 62 recommandations qui ont été formulées en fonction des différentes thématiques qu'on sort. Je pense qu'il est important qu'on puisse. Il n'y avait pas une étude comme ça auparavant. Ça c'est une étude régionale. Ça c'est une étude régionale qui a été à l'université de Kinshasa par les chercheurs de l'université de Kinshasa, les chercheurs multidisciplinaires, n'est-ce pas? Alors, il y a eu une approche holistique, une approche multidisciplinaire incluant plusieurs parties prenantes et qui a abouti à la au résultat, n'est-ce pas, au résultat et à la formulation des recommandations pertinentes. Alors, moi, je pense que il est important que on puisse explorer ces recommandations et que s'il y a lieu avec Radio Capi, nous pouvons organiser toute une émission sur les recommandations, les résultats qui ont été obtenus et les recommandations qui ont été formulées.
Bien, je vais lire les réactions de Jacques Mambi dans les territoires des Ouattara. Nous sommes victimes des Mbororo, nos champs, nos sources d'eau sont dévastées sans pitié par leurs vaches. On ne sait à qui s'adresser, on ne sait pas où réclamer. Et ces peuples sont protégés par les services de l'État, d'après lui. Votre réaction, professeur?
Oui, exactement. Il a raison. C'est parmi le fait que nous avons relevé, c'est que il y a conflit entre les éleveurs et les agriculteurs qui sont dans la partie nord-est de la RDC. Et aussi, il a été noté que la présence du bétail des éleveurs Mbororo a des impacts aussi sur la situation des animaux au niveau local. Alors, il y a la pollution des eaux, il y a la pollution des cours d'eau, il y a l'empiétement des aires protégées, des ressources naturelles dans les aires protégées, puisque selon les cartes des itinéraires migratoires que nous avons produites, il est vraiment évident que les aires protégées qui sont censées être protégées sont utilisées par les éleveurs Mbororo. Alors pourquoi sont-ils permis à pouvoir utiliser les aires protégées? C'est là maintenant que je rejoins notre interlocuteur ou bien notre auditeur pour dire que voilà, les gens notent une certaine complicité entre les autorités locales et les
et les éleveurs moraux, et cela quelque part se justifie dans le sens que eux viennent, ils ont un cheptel vraiment riche, c'est que ils viennent avec ce bétail là, ils utilisent ça pour donner aux autorités locales, c'est vraiment un moyen de revenu pour les autorités locales. Alors, c'est ainsi qu'avec cela, ils peuvent aussi faire n'importe quoi. Donc, c'est que c'est toutes ces questions-là qui inquiètent les résidents locaux et ils demandent à ce que les mesures adéquates soient prises. Et moi, je pense que nous avons été avec les résidents locaux puisque nos équipes de recherche sont parties sur terrain. Et nos équipes de recherche sont même parvenus à interviewer les éleveurs mbororo, ce qui était difficile dans les milieux très 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 reculés. Nos équipes de recherche sont partis là-bas, ils ont interviewé les éleveurs mbororo et ils ont eu des informations. Ils ont interviewé aussi les résidents locaux, ils ont eu des informations et nous avons fait des analyses, nous avons compris que il y a vraiment urgence, il faut que les gouvernements, notre gouvernement puisse agir. Maintenant, il y a des instruments qui sont disponibles, il y a des outils qui sont disponibles, il y a des informations qui sont disponibles, qui ont des outils et aussi des recommandations pour la résilience de la communauté locale. Je noterai aussi que les éleveurs, il n'y a pas que d'aspects négatifs de cette migration, il y a aussi des aspects positifs. Alors, il est question de voir comment est-ce que les aspects positifs peuvent être valorisés et les aspects négatifs peuvent être découragés.
Bien, on va accueillir le professeur Modeste Kisangala Moke, hydroclimatologue. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de La Vie au quotidien au Capi Service. Aujourd'hui, nous parlons de la gestion des flux migratoires des réfugiés climatiques en République démocratique du Congo. Je vais lire la réaction de l'ingénieur Senga depuis Kinshasa. Il dit, malgré le bétail d'Mbororo abîme les champs, nous devons savoir aussi qu'il y a un business en termes d'entrepreneuriat qui s'installe entre les deux peuples et dont tout le monde bénéficie. L'espace oriental où les Mbororo ont choisi de s'installer n'est pas pauvre. Les notables de ces coins doivent organiser un forum qui mettra autour d'une même table les Mbororo et la population pour savoir par où les bétails doivent manger, où est-ce qu'ils doivent manger et boire et où est-ce que la population doit cultiver les champs. On va accueillir Sakamina depuis Kindu. Bonjour.
Oui.
Sakamina, bonjour. Quelle est votre question?
Merci beaucoup. Je voulais juste vous dire que à un certain moment, le général Amissi Ditango Fort avait interdit l'entrée de ces éleveurs mbororo dans notre territoire. Mais maintenant, je ne sais pas comment on accepte que ces gens entrent dans notre pays pendant qu'ils viennent parfois avec des armes. Pourquoi on ne peut pas interdire une seule fois l'entrée de ces gens afin qu'on évite l'insécurité semée par ces éleveurs? Merci bien.
Bien, d'accord. Professeur Modeste, vous avez la parole.
Merci beaucoup. J'ai suivi la réaction de nos deux compatriotes. Je salue d'abord en passant tous les auditeurs de la radio Okapi. Et par rapport à la question posée, au jour d'aujourd'hui, le monde, c'est un petit village. La République démocratique du Congo, même à Glasgow, on est parti avec le slogan « La République démocratique du Congo, c'est le pays solution ». Donc tous les pays du monde ont les yeux braqués sur la RDC, sur l'espace de la RDC. C'est ici que nous avons des richesses, c'est ici que nous avons des espaces pour élever les bovins, pour élever tout ce qui est naturel. Parce que le pays d'où vient le Mbororo, au Soudan, au Tchad, tous ces pays-là, ils souffrent de ces problèmes de changement climatique. Au Sud-Soudan, le sol est très pauvre. On ne peut même pas élever des cheptels là-bas. Si on vient, c'est pour chercher comment élever, comment trouver des solutions. Et maintenant que ces gens-là sont déjà dans nos territoires, n'est-ce pas, dans la partie nord-est de notre pays, il faut chercher comment trouver des solutions, comment tirer des profits, comme l'a dit le professeur Chimanga. Comment tirer profit? Est-ce que ces gens-là, on ne peut pas apprendre aussi à faire comme eux pour élever aussi des bovins? On ne peut pas faire aussi comme eux. Comment
produire, comment capitaliser ce qui est positif dans ce qu'ils amènent dans notre pays. On ne va pas tout rejeter. Je sais que c'est notre pays, nous avons des richesses, mais il faut chercher à capitaliser ces richesses-là. Si nous avons des richesses que nous ne savons pas exploiter, les autres viennent nous montrer comment exploiter. Et nous devons normalement tirer des leçons par rapport à cette situation.
Bien. Alors, professeur Raphaël Chimanga, faut-il, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il recenser ces Mbororo, certains qui viennent avec les armes, les ramener chez eux? Et puis, vous l'avez dit peut-être tout à l'heure, installer un poste, des postes de contrôle au niveau des frontières pour contrôler les entrées et les sorties. Professeur Raphaël. Professeur, vous êtes là? Je pense qu'il est, il n'est plus en ligne, il est déjà parti. Professeur Modeste, vous avez la parole.
Oui, et en fonction de ce qu'ils sont en train de faire comme activité, ça c'est très important. Et puis, il y a l'auditeur, un auditeur qui a parlé comment est-ce qu'il faut gérer ces flux-là. Parmi les recommandations qui ont été formulées, il y a une recommandation sur la création d'une zone économique spéciale à la frontière entre la RDC et la République centrafricaine, n'est-ce pas, en vue de pouvoir contenir les flux de bêtes qui arrivent, de chèvres bovins qui arrivent. Alors, il y avait aussi des recommandations sur une stratégie d'aménagement intégré des zones d'accueil des éleveurs transhumants et l'amélioration de l'environnement de la transhumance. Donc, je rejoins mon collègue professeur Modeste Kisangana pour dire que donc il n'y a pas que les aspects négatifs, il y a aussi des aspects positifs, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce que nous pouvons optimiser les aspects positifs et puis avoir une réglementation pour pouvoir décourager les aspects négatifs. Mais tout cela, ça demande un cadre institutionnel, un cadre réglementaire qui doit vraiment aborder cette question multidimensionnelle, une question complexe, et pour pouvoir vraiment favoriser la résilience des populations locales dans le contexte du changement climatique.
Bien, professeur Raphaël Chimanga, merci. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre des recherches des ressources en eau du bassin du Congo. Excellente journée.
Merci beaucoup, M. Jodin Kachama, et merci à tous les auditeurs. Merci.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Kapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiocapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Comment bien gérer les flux migratoires des réfugiés climatiques en République démocratique du Congo? Professeur Modeste, vous avez suivi les recommandations qui ont été faites lors de cette étude qui a été faite là-dessus, créer des zones d'accueil, tout ça, parce que la question est très complexe. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire encore plus là-dessus? Professeur Modeste? Il n'est plus en ligne. Bien, nous allons tenter de le rejoindre, de le rappeler. Je rappelle que professeur Modeste Kisanga Lamoke est hydroclimatologue. Nous parlons de la gestion des flux migratoires des réfugiés climatiques en République démocratique du Congo.
Ticket to anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe. We-
Voilà, on me fait signe que le professeur Kisangala est de nouveau en ligne. Alors, professeur, comment bien gérer cette question des flux migratoires, des réfugiés climatiques? On peut dire que le changement climatique aujourd'hui, les effets du changement climatique va toujours entraîner ces migrations. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement?
Ce qu'il faut faire, il faut qu'il y ait un cadre institutionnel pour régler toutes ces genres de questions. Parce que les réfugiés, ils viendront toujours en République démocratique du Congo. Là, c'est peut-être la première vague. Il faudra encore attendre. Quand ça ne marche pas chez eux, ils viendront chercher où le climat est propice, où les climats peuvent leur permettre de faire leurs activités et comment survivre. Et c'est en République démocratique que nous considérons comme c'est un petit paradis au monde. Voilà, donc mais il faut un cadre institutionnel. Quand ils arrivent, il faut normalement créer au poste frontalier des zones tampons et enregistrer tous les réfugiés, ceux qui viennent, qu'est-ce qu'ils viennent avec, quels sont leurs objectifs, tout ça, et pourquoi ils fuient chez eux. Il faut avoir toutes ces questions-là en main, comment pour les gérer dans la suite.
Oui, et certains proposent aussi qu'il faut renforcer nos frontières sont poreuses, peut-être mettre des dispositifs pour les empêcher de ne plus entrer, de traverser comme ils les font avec leurs bêtes.
Bon, vous voyez, la RDC, c'est un pays continent. Nous avons plusieurs kilomètres de frontières qui ne sont pas naturelles, n'est-ce pas, de ce côté-là. Et il faut faire quand même quelque chose. Il faut augmenter de normalement les postes de contrôle, augmenter, créer d'autres postes par rapport à ce qui existe là. Mais il faut en créer d'autres. Partout où on voit qu'il y a, entre l'Ouganda et la RDC, entre le Soudan du Sud et la RDC, entre donc tous les pays frontaliers de ce côté-là, il faut augmenter le nombre de postes frontaliers pour commencer à contrôler les flux migratoires qui entrent en République démocratique du Congo.
Est-ce qu'on peut dire que ces migrations, ce sont réellement des mesures d'adaptation face aux effets néfastes de changement climatique?
Non, ce ne sont pas des mesures d'adaptation, ce sont des mesures, moi je dirais ça, forcées. Les gens sont en train de fuir la rigueur du changement climatique dans leur terroir. Ils cherchent là où c'est propice. Et ce qui est propice, ce qui est naturel, ce que les gens peuvent vivre, peuvent cultiver, peuvent paître leur bovin, c'est en République démocratique du Congo, où nous avons un bon climat dans toutes les parties de la RDC, où nous avons de la verdure, où les bovins peuvent vivre et paître sans problème. Donc, ce n'est pas vraiment des solutions pour les changements climatiques. Ça, ce sont des solutions forcées. Les gens fuient chez eux pour venir chercher où vivre mieux en République démocratique du Congo.
Et quelles sont les bonnes solutions? Parce que celles-là sont fortes. Cette solution-là est forcée. Alors, quelles sont les bons mécanismes d'adaptation aux effets des changements climatiques?
Les mécanismes d'adaptation sont nombreux. On ne va pas tout étayer ici. Par exemple, il faut lutter contre les changements climatiques, il faut créer des bonnes conditions de vie des populations, il y a des cultures améliorées, il y a des semences améliorées que les populations peuvent utiliser pour lutter contre les changements climatiques. Il faut changer aussi les cadres de vie, parce que nous en Afrique, nous on est souvent en retard. Ailleurs, quand on sent qu'il y a telle chose qui ne marche pas, on met les scientifiques à l'avant-garde. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans notre pays. Nous, on nous met toujours en retard. Nous sommes derrière, les politiques sont devant, les scientifiques sont derrière. Quand il faut aller défendre le pays, qui partent pour aller défendre le pays? Tous les scientifiques sont restés. Qui partent pour défendre le pays? Les changements climatiques ont ses règles. Comment lutter contre les changements climatiques? Ce sont les scientifiques qui savent. Et les résolutions sont nombreuses par rapport à ça. Et là aussi, les Mororo, par exemple, sinon, parce que vous parlez de Mororo ici. C'est la première vague que nous voyons. Mais les autres vont venir. Rien que peut-être pour chercher où faire les champs. Ça, il faut s'attendre à ça. Au Sud-Soudan, si je prends seulement l'exemple du Sud-Soudan, un sol très pauvre. Il y a la rigueur du climat. Il n'y a pas de lames d'eau propices pour faire des cultures. Hein? Et ces gens-là vont continuer à mourir de faim? Non. Aujourd'hui, les monts de certains petits villages, ils vont traverser et ils ne vont pas se chercher à prendre des pirogues. Ils traversent à pied parce que les frontières là, c'est naturel. Ils traversent à pied. C'est des frontières terrestres. Ils traversent, ils entrent et ils vont chercher où faire les champs pour vivre.
Donc c'est une question qui mérite d'être prise au sérieux mérite d'être prise au sérieux et puis trouver des solutions assez rapidement.
C'est pourquoi nous disons c'est vraiment des questions qui doivent être réglées dans un cadre institutionnel entre les nations. Ceux qui viennent, qui sont-ils? Ils viennent avec les armes. Voyez, quand on vient avec les armes, c'est pour dire non, là où nous venons, nous aussi on a besoin de vivre comme vous. Laissez-nous le temps. Et quand ils viennent, c'est pas toujours négatif. Ils viennent avec les armes, mais nous n'avons pas les armes de ce côté. Nous n'allons pas les combattre parce qu'ils ont les armes. Mais il faut les faire asseoir, faites tomber vos armes. Ici, il y a de l'espace pour tout le monde. Faites ce que vous pouvez faire, mais il faut respecter la loi de ces pays. Voilà. C'est là que ça sera positif. C'est comme ça que j'ai dit, il faut capitaliser. Qu'est-ce qu'ils amènent? Et qu'est-ce que nous n'avons pas? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire comme eux? Qu'est-ce que nous pouvons tirer profit de cette vague migratoire qui arrive dans notre pays?
Bien. Professeur Modeste Kisangala, je rappelle que vous êtes hydroclimatologue. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour aborder cette question des flux migratoires des réfugiés climatiques, les pasteurs Mboro. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie pour m'avoir accordé ce temps de parler sur la radio Okapi.